Myriam Mihindou, le corps sculpté.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur.
Myriam Mihindou se dit sculpteur dans l'âme et le corps de cette plasticienne n'y est pas étranger. Un corps qui travaille à s'accoucher de lui-même et de son histoire. Née à Libreville d'un père gabonais et d'une mère française, la Mihindou, passée par l'école des beaux-arts de Bordeaux en France, navigue d'une digue à l'autre entre art contemporain et tradition animiste, nature landaise et terreau gabonais. Présentée comme une artiste nomade, un peu chamane et vivant dans le tout monde, en sol majeur est prêt à rentrer dans son monde féminin, invisible, ritualisé, malmené, soigné, tiraillé entre la glace, les aiguilles, le blanc, le noir, le colonisé, décolonisé, la photo, la vidéo, l'archive. Des performances exposées dans le monde entier avec des ancrages à la Réunion, en Égypte, au Maroc, en France, aux États-Unis et en Africa 2020. Mais toujours avec des interrogations sculptées de façon charnelle et fondamentale. Bonjour Myriam Mihindou.
Bonjour Yasmina.
Pour poser un premier jalon entre vous et les auditeurs, j'aimerais bien que vous nous donniez l'image de la première œuvre qui, paraît-il, vous a fait connaître du grand public et qui s'intitule « Folle ».
Alors « Folle » est la première œuvre performative qui a donné lieu à une vidéo d'ailleurs, donc « Folle ». Et c'est une œuvre qui parle du carcan social, de l'épouvantable pression sociale faite sur les corps, en quelque sorte. Que ce soit un corps social, un corps de femme. Et donc cette folle doit rassembler toutes les énergies bénéfiques pour pouvoir s'extraire justement de cette pression.
Mmh. Et quelle forme vous lui avez donnée à ce carcan sur votre propre corps, puisque vous travaillez sur votre corps ?
Alors, je dirais que moi, je travaille beaucoup des images visuelles. Et visuellement, la folle, c'est un pied qui ne parvient pas à transgresser, en fait, une limite. On ne sait plus si c'est un pied ou une main, en fait. Je réduis quasiment l'image de folle à une forme animale. Et au fil du stress, en fait, ce pied, en fait, qui plonge dans une limite de talc, qui est rempli de talc, monte sur le grand corps. Et donc ça, c'est vraiment une image du stress de la folle. Et puis à la fin de cette vidéo, la folle parvient justement à passer la frontière et donc à vaincre finalement ses peurs.
Bienvenue en sol majeur. Vous nous embarquez pour commencer, c'est une suggestion, avec Patrice Mbumba, côté musique, et sa Sanza Pounou. Pourquoi ce morceau ?
Parce que la Sanza, pour nous, c'est très important. Elle raconte des épopées. Elles font l'objet aussi de réunions, on va dire, communautaires, familiales. Chez les Pounous, ça permet de raviver les mémoires orales. Et cette Sanza, je l'ai toujours entendue, en fait, dans mon village. Et c'est, comment dire, une musique qui m'apaise.
Yeah. makulu na kondu wanda mamele misando di mnembenge ila menu emana mata ugu mushiru mayiru tesi yeye fudu ye di ye me mame yifudu ima titi menderonde eye ube mufoska bopi maguma beji babedi ronde de de tungila dinge mame malongu na malobe mula wange ye Zangane ye, jetugune nyangi kandengule Ndengele ye, kumbwabu musongu na mutu webu Imbu diapo mikaji ya mamele, yengu diapo diange ye Diangi limoto mamburu wanya ye Italie mame, mamtai wule ye
P
P comme papa.
Myriam Mihindou, vous êtes née dans la capitale gabonaise, donc à Libreville en 64. Qui était Valentin Mihindou ?
Valentin Mihindou était Valentin Mihindou Minzamba, plus précisément. C'était mon père, le paternoster, comme on dit chez nous.
Ouais, ouais.
Voilà, mon père était un personnage... qui avait une aura assez particulière, qui prônait pour l'émancipation, je dirais, des Gabonais et des Gabonaises.
Oui, c'est quelqu'un de très important. J'ai vu qu'à 400 km de Libreville, à Chipanga, il y a un centre de formation et de perfectionnement professionnel, Valentin Mihindou Minzamba. Minzamba, ça veut dire ?
Ça veut dire « fils du ciel ». Nzambi est le ciel chez nous. C'est un nom de famille qui est très très important. Puisque ce sont des noms d'initiés.
Donc c'est avec lui que vous avez par exemple assisté à la sortie des masques à Moabi ?
Oui, plusieurs fois,
le village.
Puisque mon père était dans le domaine de la culture. Et lorsque j'étais enfant, j'étais absolument fascinée par les danses traditionnelles et les sorties des masques. Impressionnante quand on est enfant, puisqu'on a des rituels à respecter, on a peur des masques. Et donc, on a des gestes à produire pour pouvoir laisser passer ces masques.
Valentin Mihindou, ancien ministre de la Culture d'Omar Bongo ?
Oui, c'est ça, oui. Il a eu aussi des postes, je dirais, aux ressources humaines. Et il a été médiateur à un moment donné de la République aussi. Il était premier représentant de la francophonie.
Pour quelle raison a-t-il fait de la prison politique ?
C'était un homme très engagé, déjà en 64, quand il est arrivé au Gabon, puisqu'il a fait ses études en France.
Il a fait l'école Boulle, c'est
il ça ? Il a fait l'école Boulle, voilà,
c'est exactement. C'est-à-dire cette école supérieure d'art appliqué à Paris ?
Oui, tout à fait. Et puis par la suite, il a complété ses études par d'autres formations. Et c'est vrai que quand il est arrivé en 64, c'était au moment de Léomba. 14 donc, étudiants ont été emprisonnés à ce moment-là. On a commencé à brider un peu la jeune génération pour la mettre au pas. Il était très très préoccupé par des questions de formation, de former les Africains à penser, à avoir conscience aussi de leur état. Et moi, il m'a amené cette conscience-là, donc oui.
On ne pouvait pas l'assassiner parce qu'il était d'une certaine manière, aux yeux des Africains, intouchable ?
Eh bien, il représentait une des tribus majoritaires du Gabon, qui est la tribu du Sud, donc les Pounous. Et c'est une tribu non seulement importante, mais mon père aussi avait une place mystique. Et je pense qu'il était de ce point de vue intouchable.
Alors, j'ai vu qu'il... c'est vous qui m'avez expliqué ça quand on a préparé cette émission, Myriam Mihindou, qu'il vous avait donné, donc en 1974, les pieds de son lit de prisonnier.
Oui, je pense que ça a été la raison pour laquelle je suis artiste aujourd'hui. Parce que quand il est sorti de prison, en fait, nous avons des bois extraordinaires, des essences nobles, nous, au Gabon. Et donc, il avait sculpté, avec le pied de son lit, une sculpture qu'il m'a remise. Lorsqu'il est sorti de prison, cette sculpture représentait la violence et la paix. Quand on la mettait debout, c'était une femme pleine, féconde. Et il me disait, tu vois, ma chérie, tu vas devoir gérer ça tout le temps. Ces deux rapports très, très paradoxaux.
Alors, vous avez gardé aussi ses manuscrits. Vous avez devant vous son carnet avec son écriture très régulière. Manuscrit où il parle de quoi alors ?
Là, il parle en fait de la place du cœur. Parce qu'il avait des problèmes de tension artérielle. Et il doit gérer ce cœur et il entend battre ce cœur tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il vit avec ce cœur. Donc, il y a toute une histoire avec le cœur qui est assez puissante. Quand je le relis à chaque fois, ça me touche en fait. J'ai dans cette optique suggéré, bien que la prise de la tension artérielle se fasse non seulement le matin, au sortir du lit, mais également le soir, lors de la dernière visite des Saint-Pierre, qui est la fermeture des portes. Aujourd'hui, la suggestion a été suivie des faits. Tension A le matin, 14. Tension A, donc artérielle le soir, 12. On verra au bout d'une semaine les variations qu'on enregistre et les commentaires qu'on peut en faire. 6 unions, 5 romans dont 2 Émile Zola, 2 revues, VSD et L'Express, m'ont été remis, bien qu'ils étaient en souffrance à la censure. La lecture n'est plus un problème pour moi, qu'il y en ait ou pas, vraiment cela m'est égal. Je préfère de beaucoup m'appartenir, me livrer à la réflexion, à l'analyse des phénomènes de la vie, à butiner plutôt qu'à me droguer de pensées des autres. Si demeurer sans livre est tendre vers la bêteté, dit-il, eh bien je préfère rejoindre mon père et ma mère qui étaient infiniment plus heureux et plus dignes pour ne pas avoir été à l'école des autres. Eux, ils étaient à leur école, une école beaucoup plus édifiante, alors que maintenant... Le dos au mur, on invente toujours. Couteau, fourchette interdite en prison, et pour, paraît-il, ne point se donner la mort, avant qu'on ne vous la donne. Moi, je voulais le couteau pour couper ma viande, et la fourchette pour la maîtriser dans mon assiette. Bon, pas de fourchette. Il y a mes mains préalablement lavées, infiniment plus hygiéniques. Parce que jamais, jamais personne ne me les empruntera pour commettre un quelconque crime.
Merci Myriam Mihindou pour la lecture de ces carnets bouleversants de votre père, donc Valentin Mihindou, dans les geôles d'Omar Bongo dans les années 70. Qu'est-ce que vous apprenez au fond à la lecture de ces carnets ?
Mon père me disait toujours, quoi qu'il advienne dans ta vie, pense à Sitanda, la possible impossibilité. Il m'a appris la réversibilité des situations, sans pour autant être trop impactée. Ce que j'apprends, c'est que la vie est aussi un long fleuve tranquille, c'est-à-dire que pour être un bon militant, de manière symbolique, il faut être patient.
Sa dimension mystique l'a aidé dans cette épreuve de détention ?
Énormément. Parce que nous sommes vraiment une tribu extrêmement mystique. Les Pounous, tout particulièrement. Hein. Puis c'est pour ça qu'on disait que les Pounous étaient un peuple un peu, soi-disant, violent, vengeur, alors que pas du tout. Nous avions des masques mystiques très, très, très précieux. Et pour éviter qu'on ne nous les vole, évidemment, on se défendait.
Alors ces écrits vous ont fait produire, je crois, une performance à votre tour qui s'intitule « Les ailes de mon père », qui a d'ailleurs été installée à la colonie de Kaderatia en 2017-2018. Expliquez-nous cette performance.
Alors les ailes de mon père, c'est vrai que j'ai toujours été très discrète sur cette partie de ma vie en tant que plasticienne. Et j'avais besoin publiquement d'amener à la compréhension que les intellectuels africains étaient vraiment très blessés par leur gouvernement et que cette ponction, on va dire, de la conscience africaine, en fait, elle m'affectait énormément. Et donc j'avais décidé de rendre hommage à mon père puisqu'il fait partie de ces gens qui se sont battus.
Mais qu'est-ce que la plasticienne a imaginé alors dans les ailes de mon père ?
Alors dans les ailes de mon père, j'ai réalisé un costume, en fait c'était de grandes ailes qui faisaient à peu près toute la longueur de mon corps. Et j'avais donc cousu pendant de très très longues heures des sortes d'alcôves que j'avais remplies de sable. Donc j'arrive sur scène avec ces ailes très très lourdes à porter. Je mets en place tout un rituel, je lis des textes.
Quel rituel ?
Donc les textes, un rituel en fait de déplacement de ces ailes, qui sont des rituels en fait que je reprends aussi dans notre espace mystique qu'est le Mbuiti. Et puis, au fur et à mesure de mes lectures, en fait, je vide ces ailes de sable et je distribue au public aussi les éléments aussi de ce poids pour que le public aussi prenne conscience de cet héritage qui est le leur également.
Vous vous sentez plus légère depuis ?
Beaucoup plus légère, oui. C'est important, la parole.
Alors, si on résume pour un sol majeur, un père donc très en lien avec la culture des masques, avec la dimension mystique des Pounous, marqué par une expérience de militantisme et de détention. Et puis une mère, on n'en a pas encore parlé, française, directrice d'hôpital. Hein, elle a géré l'hôpital général de Libreville. Ça veut dire que pour vous, Myriam Mihindou, vous avez eu sous les yeux le corps dans ses multiples dimensions.
Ah oui, très tôt j'ai été confrontée à des situations assez tragiques, hein, parce que l'hôpital c'est quand même le lieu du soin, mais c'est aussi le lieu de la mort, mais c'est le lieu de la lutte aussi, de la résistance.
Et donc on retrouve même des influences, des inspirations jusque dans vos titres, hein. J'ai vu qu'il y avait une installation, une sculpture, je ne sais pas comment il faut dire exactement, amygdale.
Amygdale, parce que pendant très très longtemps, on pratiquait donc l'ablation des amygdales, à savoir que l'amygdale est une partie essentielle du corps. On dit d'ailleurs que quelqu'un à qui on aurait coupé les amygdales, on serait dans une forêt, s'il y a un serpent qui passe, il ne va pas anticiper sur le danger qui se produit, alors que quelqu'un qui possède ses amygdales est capable d'anticiper sur le danger. D'ailleurs, aujourd'hui, on ne pratique plus d'ablation des amygdales. On l'a fait pendant très longtemps sur une génération d'enfants. Mmh. Et c'est la raison pour laquelle j'ai alerté aussi quelque part mon public en travaillant autour de ces thématiques. Qu'est-ce que ça signifie, l'ablation d'un organe sur un corps?
Donc vous avez une approche, on va dire, à la fois clinique et politique du corps.
Oh oui, clinique et politique.
Et mystique.
Et mystique, oui, également.
Papa loco, où c'est vent, où c'est l'allée. Nous c'est papillon, la beauté nouvelle Bayagoué. Papa loco, où c'est vent, où a poussé l'allée. Nous c'est papillon, la beauté nouvelle Bayagoué. Et tout ça qui dit bien, j'aime l'ailleurs. Et tout ça qui dit mal, j'aime la yé, papa loco, où c'est vrai, pour s'en aller, nous c'est papillon, la beauté nouvelle, Bayagoué. Papa loco, où c'est vent, où s'en aller. Beauté nouvelle Bayagoué. Papa loco, où c'est vent, où a poussé l'allée. Nous c'est papillon, la beauté nouvelle Bayagoué. Et tout ça qui dit bien.
Curiosité en sol majeur, est-ce que vous pensez qu'il aurait aimé cette chanson de Toto Bisanté, votre père, Myriam Mihindou?
Ah oui, je pense qu'il se serait endormi avec cette chanson-là.
C'est une berceuse.
Ah, c'est une berceuse.
Pourquoi vous aimez Toto Bisanté?
Parce que déjà, je dirais que moi j'aime ces musiques un peu intemporelles, c'est-à-dire que je pars avec elles, hein. Je pars et je ne sais pas où je vais, mais je la suis en tout cas. Et ça, c'est important pour moi, ce sont des déconnexions. Ce son également, qui me rappelle des sources, parce que ben oui, les sources. Bon, moi, je connais très bien Haïti. J'y suis allée 3 fois. J'ai beaucoup travaillé en Haïti. Et après, ben, quand je vais à La Réunion, je retrouve le même son. La Guadeloupe, la Martinique. Je vais au Maroc aussi, les Gnawa, je retrouve ce son-là. Voilà, c'est un son qui m'est familier en quelque sorte.
Donc, on peut regarder ailleurs, ensemble, pour un sol majeur, mais aussi on peut regarder en arrière. Je vous propose de nous retourner sur 1966. Lorsqu'on interrogeait l'auteur d'une saison au Congo, de cette insidieuse question, le journaliste demande « Quelle est la participation, selon vous, de l'art noir dans l'évolution de notre civilisation ?» Césaire, au micro de France Culture.
Il me semble que l'art noir est arrivé à un moment très précis et où vraiment on avait besoin. Si l'art noir n'avait pas existé, de grands artistes européens l'auraient inventé. Et l'art noir arrive à un moment, la révélation de l'art noir arrive à un moment où véritablement l'art européen se meurt d'académisme. On ne voit plus les choses, on ne sent plus les choses. Il y a une telle tradition de l'école qui s'interpose entre le monde et les choses. Et l'art noir arrive brusquement, fait éclater tous les poncifs, donne une sorte de fraîcheur à la vue et en même temps montre que par-delà tous les académismes, ce qui est vraiment la chose essentielle, c'est le rythme, ce rythme corporel, ce rythme des choses. Mais je crois que c'est le service que l'art noir a rendu à l'art européen. Le rythme n'étant pas du tout lié à la musique, mais trouvant également son expression, par exemple la sculpture.
Je m'en doute un petit peu, mais je vous pose quand même la question. Pourquoi est-ce que vous souhaitiez entendre en sol majeur cette archive avec la voix d'Aimé Césaire, Myriam ?
Bah, disons que quand on parle de l'art, du mouvement, de la conscience noire, je pense que c'est très très vivace à cet endroit-là. On ne connaît pas l'âme noire. On l'a enfermée dans une boîte. On la représente, on en parle beaucoup, mais on ne la connaît pas. Et ce sont des auteurs, pour moi, qui ont redonné noblesse, justement, à l'âme noire. Et à l'âme, d'ailleurs, noire de la déportation. Parce que ce sont des corps déplacés, ce sont aussi des diasporas. Et je pense que nous avons besoin d'avoir comme ça des personnages qui nous portent. Et il en fait partie.
Quand j'écoutais Césaire, j'ai l'impression qu'effectivement, il remet, lui, en cause... on va dire, la pérennité des écoles, du côté académique de l'art. Ce que vous faites, vous, Myriam Mindou, en tant qu'artiste contemporaine, vous pensez que ça n'a pas de lien véritablement avec les écoles qui ont été les vôtres, pourtant ?
Vous parlez des écoles
Parce que vous avez fait l'école d'architecture, vous avez fait une école d'art, vous avez fait une année d'histoire de l'art sur les ruines romaines, n'est-ce pas ? Et puis vous avez donc fait l'école des beaux-arts de Bordeaux.
Alors quand je suis rentrée à l'école des beaux-arts de Bordeaux, vous imaginez, j'arrivais tout droit et tout chaud du Gabon, quand même. Et donc j'étais pétrie évidemment de ma culture du masque. Évidemment, je commençais à m'exprimer à travers deux fentes, donc, qui sont les yeux du masque, dans un registre très mystique. Et on m'a dit, écoute, on est dans une école conceptuelle, je ne veux pas entendre parler de masque. Alors c'était très compliqué pour moi, puisque j'étais un des éléments de cette culture. J'avais un héritage très très puissant du côté des masques. Mais dans cette école-là, on était sur des registres plutôt états-uniens, allemands, et en aucun cas des registres, en tout cas de mémoire noire.
Alors ce qui est fou, c'est que vous êtes sorti, je crois, diplômé de cette école des beaux-arts de Bordeaux, je crois même avec les félicitations du jury, mais vous ne l'inscrivez pas dans votre CV, ce diplôme ?
Non. Il s'avère que quand je suis rentrée dans cette école, j'étais assez traumatisée, je pense, par l'histoire de mon pays. J'ai commencé à avoir des problèmes d'aphasie, en fait. J'étais suivie par une psy pendant 4 ans. Je pense que j'étais la seule artiste, d'ailleurs, suivie par une psy à l'intérieur de l'école. Et je ne pouvais nullement présenter mes œuvres devant public. J'étais vraiment, à chaque fois, mise à l'écart. Et lorsque j'ai passé mon diplôme, d'ailleurs, j'ai fait une transe émotionnelle extrêmement puissante. Et la première transe est arrivée là.
Alors on va justement, pour comprendre un peu mieux cette histoire de transe, on va déposer un petit peu de sansa sur notre pick-up, donc cet instrument utilisé au Gabon pour nous raconter ces épopées et ces récits qui deviennent mythiques, comme vous nous le disiez tout à l'heure, Myriam. Et ça devrait vous inviter à nous raconter ce qui s'est passé, vous fermez déjà les yeux, lors de votre performance d'hypnose que vous avez intitulée « La robe envolée ».
La robe envolée, je suis invitée à Las Palmas de Grande Canaria par Elvira Diangani-Ozé, qui est une commissaire. Donc je décide de performer dans une grande salle avec un énorme écran, dans une salle de conférence. Et il y avait une petite salle juste derrière l'écran et j'ai demandé donc à performer derrière l'écran et pas de manière frontale devant le public. Quand je suis rentrée en performance, j'avais au préalable mis à peu près une quarantaine de collants très fins sur mes jambes, qui comprimaient mes jambes. J'avais vécu à La Réunion, j'étais au Maroc, et donc j'avais certaines expériences de ce corps de femme. Et donc j'arrive sur scène et je pensais simplement traduire ce que je ressentais par des gestes, en creusant justement dans mes jambes, en ouvrant ces collants. Et puis, à ma grande surprise, lorsque... en fait, cette performance ne devait pas être enregistrée. Lorsqu'on me l'a envoyée par la suite, il s'avère que pendant à peu près une demi-heure, je parle. Mais je ne savais pas que je parlais.
Je sais pas pourquoi.
Et donc, je pense que c'est vraiment une séance d'hypnose parce qu'à l'écoute de cette vidéo, je retrace toute une vie, en quelque sorte.
Est-ce que vous en avez fini avec l'aphasie au sortir de cette séance d'hypnose ?
Ça a été une véritable cure, en fait. Je peux appeler ça une auto-hypnose. Je me suis soignée, là, j'ai pris conscience aussi de la force de l'art. Parce que par la suite, je suis complètement sortie, en fait, de cet état d'aphasie.
Aujourd'hui, je cherche la robe. J'ai dû porter des robes pendant des années, mais...
Alors j'ai regardé cette vidéo qui est en noir et blanc, il y a effectivement un plan sur juste vos jambes qui sont un peu croisées. On voit que vous donnez un mal de chien, si vous me permettez l'expression, pour déchirer ces collants qui en fait se déchirent mais ne disparaissent jamais. Le corps n'est jamais libéré. Pourtant, on continue à voir des espaces de peau qui apparaissent de plus en plus comme ça. Est-ce que vous êtes dans une forme d'art-thérapie, Myriam Mihindou ?
Eh bien, je ne savais pas, mais j'ai pris conscience avec cette vidéo que je l'étais, et que je l'étais depuis assez longtemps en réalité. Puisqu'à la fin, on a ces collants qui forment des sortes de boules, comme une maïotique en fait. C'est vraiment ce qu'on appelle l'accouchement des idées. Et cette maïotique, pour moi, je veux dire, elle ressort bien justement d'une thérapie.
Donc vous nourrissez en fait de cette culture première, qui est la culture du masque, la culture Pounou, la culture mystique.
Oui. Alors ce qui est étonnant, c'est que, en tout cas dans le cas d'initiation, et c'est pour ça qu'à un moment donné, ça m'a posé un problème, cette vidéo, c'est que dans un cadre mystique, quand on est initié... Quand on ouvre les jambes et qu'on fouille entre ses jambes, c'est pas la honte, mais on ne doit pas faire ça. Et au moment où j'ai regardé ça, je me suis dit, j'ai profané les lois du sacré.
Il a fallu que je meure pour renaître.
Mais il fallait nécessairement que je les profane pour libérer justement ce que j'appelle ce papillon.
La psychanalyse peut aller se rhabiller aussi.
Oui, exactement. Je crois que là, justement, la robe envolée, c'est de laisser ce corps renaître de lui-même et par lui-même.
Alors votre corps, c'est comme une éponge, hein. On a l'impression que là où vous passez, ce que vous vivez, les expériences que vous vivez vous traversent négativement, positivement. Je me demandais, vous qui avez beaucoup voyagé, quand vous passez de l'île de la Réunion, où j'imagine le corps est à peu près libre, à l'Égypte, vous avez vécu beaucoup en Égypte aussi, où là le corps est voilé, qu'est-ce qui se passe à vous dans votre corps, Myriam Mihindou ?
Mais c'est vrai que lorsque j'ai quitté la Réunion pour m'installer en Égypte, j'ai dû me couvrir puisqu'on me prenait pour une Égyptienne, ce qui a été d'ailleurs une belle école pour moi.
Ouais.
C'est finalement très intéressant qu'on m'ait prise pour une Égyptienne parce que j'ai été à bonne école, j'ai découvert le monde des femmes, j'ai découvert un monde aussi extrêmement intéressant. Disons que le fait de voiler mon corps m'a permis justement de revenir à moi-même, de me percevoir autrement, même dans une relation sociale. J'ai découvert le monde des femmes et le monde des hommes. Finalement, je ne connaissais pas ce monde-là dans un espace démocratique. Pas tant que ça.
Je ne savais pas ce que c'était que d'abstraire le corps.
Mais j'ai beaucoup apprécié, en tout cas, cette initiation au corps dans les pays musulmans. C'est vraiment un autre corps, et puis le corps qui se lave aussi.
La question de l'eau sur les corps musulmans, c'est une belle thématique, j'imagine, pour l'artiste que vous êtes. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez, là je reviens à l'artiste contemporaine que vous êtes, je ne sais pas ce que vous pensez du mot « vocation ». On va voir ce qu'en disait l'écrivain congolais, l'immense Sonny Laboutansi.
Quand on parle de vocation, je rigole parce que, bon, la vocation, c'est la vie. Et aussi, je profite, je crois, d'une situation qui est celle de l'Afrique, où la vie quotidienne, la vie sacrée et la vie esthétique ou artistique se mêlent, mais vraiment de manière quotidienne. Et je profite de ça, si bien que la plupart de mes romans, surtout, se reposent au niveau du titre, parce que le titre est toujours une espèce d'anecdote. La vie et demie, par exemple, la vie et demie, c'est l'anecdote, je n'expliquerai pas, j'aurai pas le temps de l'expliquer, mais c'est aussi cette solitude de Lorca Lopez. C'est l'anecdote, ça c'est le titre de mes livres, la parenthèse de sang. C'est un moment comme ça dans ma vie quotidienne qui devient très très fort, très intense, et qu'à partir de ce moment commence à trotter à l'intérieur de moi une histoire humaine avec bien sûr ses hauts et ses bas, c'est bien, et une histoire vivante, surtout c'est ça qui est important.
Myriam Mihindou, qu'est-ce que vous puisez chez Sonny Laboutansi ?
Disons que Sonny Laboutansi, c'est l'avant-garde africaine. C'est, je dirais, quelqu'un qui a quand même travaillé beaucoup sur des thèmes comme la corruption, le pouvoir. Et c'est vraiment un écrivain qui me touche particulièrement. Quand il parle de la vie en Afrique, d'ailleurs, c'est un homme de théâtre. Le théâtre est là en Afrique, il est vivant. Il est présent chaque jour. Et c'est ce théâtre-là qui nous fait tenir debout, justement. Voilà. Et il a su, dans son écriture, amener cette ambiance très vivace, je dirais, de la culture africaine, du ressenti africain et de la nécessité, je veux dire, de vivre aussi dans ces espaces africains. Et donc, pour moi, c'est une éloge de l'Afrique. Et c'est un grand frère, Sonny Laboutansi.
Vous aussi, vous prenez un peu la vie. La psyché, la main dans le sac, c'est comme ça que vous l'utilisez finalement. Et je repense en écoutant Sonny Laboutansi à l'instant, ce titre, l'un de ses titres, à lui, la parenthèse du sang. Parce que le sang, c'est aussi quelque chose de très important dans votre travail. Je ne sais pas dans quel sens, en revanche.
S'il y a bien une chose en quoi j'ai confiance, c'est bien mon sang. Je suis nomade, donc je me suis beaucoup promenée en Afrique. Je connais bien l'Afrique quand même. Et c'est ce sang-là dont je parle. Je sens bien qu'il coule. Qu'il coule comme coule le fleuve Congo. On dit que le fleuve Congo, c'est le centre de l'univers. Et moi, je le ressens comme ça, ce sang. Comme le centre de l'univers. Sans prétention.
Mais à regarder votre travail, on a l'impression que le noir, le blanc, le colonisé, le colonisateur... Tous ces éléments vous travaillent au corps, si j'ose dire.
Ça me travaille parce que déjà, je suis métisse. Donc quand on est métisse, c'est ce que je dis souvent, on est une sorte de monstruosité de l'histoire.
Une monstruosité.
Une monstruosité de l'histoire, oui. Puisqu'on est considéré comme traître. On sait très bien que les pays n'aiment pas le métissage, hein, quel que soit le pays, puisque ça veut dire que tu appartiens à deux États. Moi, j'ai considéré que je n'avais jamais à faire le choix de mon état. Je n'ai pas décidé de naître dans le ventre de ma mère. J'aime infiniment mes deux parents. C'est vrai que j'ai vécu en Afrique, donc j'ai un attachement peut-être beaucoup plus fort. Hein. J'ai le sang qui coule beaucoup plus fort de ce côté-là. Voilà ce que j'ai entendu. J'ai été pétrie, formée dans cette matière-là. Mais cependant, je reste quand même attentive à ces deux états. Parce que le métis, c'est quelqu'un qui a fait vraiment l'objet de conflits permanents. Donc c'est un peu le bouc émissaire des systèmes. Je dirais plutôt les choses comme ça. Donc il a fallu que je me soigne de ces rapports, on va dire, plutôt politiques, qui nous rendent un peu muets à un moment donné, parce qu'on n'a plus envie de se défendre.
Qui était Paul Niger ?
Alors Paul Niger, c'était un homme politique. D'ailleurs, est mort dans un accident d'avion. Il était de la Guadeloupe Et c'était un personnage qui faisait partie de présence africaine, justement, avec tous ces gens, Césaire, il y avait Senghor aussi. Voilà, c'est toute une génération quand même d'hommes qui pensent. C'était, je crois, le premier avocat noir aussi qui plaidait. Donc c'est quand même un personnage politique engagé qui lui aussi défendait des valeurs africaines. Comme un peu je les défends, on va dire. Ouais.
D'ailleurs, Césaire disait qu'on lui devait la résurrection de l'Afrique. Et vous avez mis en exergue d'une de vos performances, intitulée « No Sensibility », les mots de Paul Niger. Ces mots, « le ventre des femmes que tu n'as pas aimé mais violé ». Pourquoi vous avez mis ces mots-là en exergue? Peut-être la réponse, tout en nous plongeant dans la dimension sonore de cette performance. Racontez-nous ces mots et racontez-nous cette performance.
Cette performance, elle parle de la blessure profonde. Quand on parle du post-colonial, de la période coloniale, les femmes étaient, pour la plupart, engagées comme ménagères. Elles n'avaient pas de statut, elles étaient maltraitées. Pas mal d'entre elles étaient femmes de ménage. Et bon, on a quand même reçu une éducation coloniale où nous parlions français. Nous avons dû, enfin en tout cas, pas mal d'entre nous, on a dû apprendre cette langue. C'est un peu comme la louve de Romulus et Rémus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on t'apprend la langue, on ne peut pas te refuser le lait. Et donc, il y a une sensibilité qui s'opère entre celui qui reçoit le lait de la langue et celui qui donne le lait. Et donc, ça crée des traumatismes à un moment donné. On ne se rend pas compte à quel point ça peut être violent, finalement. Je t'apprends ma langue, mais je ne te reçois pas. Et nos sensibilités, c'est toute cette génération de femmes qui auraient aimé s'émanciper, qui n'ont pas pu le faire parce qu'elles étaient dans un contexte colonial. Et donc, qu'est-ce que cet esprit colonial décidait pour les femmes de ce pays ? Et donc, dans nos sensibilités, je décide donc de me paralyser sur un savon. Je décide de me paralyser sur un glaçon. Et je me disais, lorsque mon corps sera totalement paralysé, je n'aurai qu'une seule phrase à dire, c'est celle-là.
Le ventre des femmes que tu n'as pas aimé, mais violé.
Oui, exactement.
Alors, vous dites, je me paralyse sur un glaçon. Effectivement, vous êtes assise dessus, vous le travaillez. Il y a même une façon physique de vous imposer le glaçon sur le visage. Quelle est la symbolique de ce glaçon ?
C'est l'anesthésie. J'anesthésie mon corps et à la fin de la performance, en fait, il y a une machette sur laquelle j'ai gravé « Vive le roi ». Et donc, cette machette me permet de sculpter une forme féminine entre mes jambes, qui est ce glaçon sur lequel je me trouve. Mais c'est vrai que j'ai été jusqu'à vraiment l'anesthésie de mon corps, à tel point que j'ai eu des problèmes après, évidemment, d'hypotension pendant pratiquement une semaine, hein, parce que je me suis tellement, tellement glacée sur cette sculpture-là. Mais c'était important pour moi de pouvoir dire cette phrase en ne pouvant pas la dire finalement, puisque j'avais la mâchoire complètement bloquée au moment où il a fallu que je l'exprime. Mais ça a été extrêmement libérateur.
Oui, mais c'est une question, parce qu'en même temps, vous vous infligez une souffrance terrible.
Oui, mais la souffrance, définitivement, est libératrice. Je vais jusqu'au bout, finalement, de ce qui fait mal, pour pouvoir définitivement m'en libérer.
Vous avez fait ce lapsus entre glaçon et savon, parce qu'effectivement, dans une autre performance, il est question de savon. Et c'est aussi toute la question autour de votre corps, hein, en tant qu'artiste contemporaine, Myriam Hindou. Tantôt, vous le soignez, vous le cajolez, vous le bercez, tantôt vous le maltraitez. Alors, comment expliquer cet équilibre entre la violence et la douceur dans votre travail ?
Alors peut-être qu'on peut revenir à cette œuvre que mon père m'avait offerte. Hein.
Les pieds du lit de
voilà, les pieds du lit qui représentaient finalement cette violence et cette douceur. Et que cette œuvre placée debout était le corps d'une femme, en tout cas le corps d'une humaine, on va dire plutôt les choses comme ça, puisque nous appartenons à une tribu matriarcale. C'est très important pour moi en fait d'appartenir à une tribu matriarcale. Je n'ai jamais souffert, en fait, de mon statut de femme. dans ma relation à ma tradition. Mais en dehors de cette relation, ça a été beaucoup plus compliqué. Et ce que j'ai pu constater, c'est que dans des systèmes coloniaux, c'était carrément un véritable massacre. Donc je me sens d'autant plus impactée que j'ai vécu dans un système matriarcal.
Don Imbeho, Borulguia.
Dans quelle langue dites-vous
l'amour?
L'aube.
Aïe, tu es mon okakimaska.
Myriam Mihindou.
Mitondawe. Je le dis en Puno, oui.
La langue
c'est
des...
peut-être le seul mot que,
ah oui.
Oui, que je dis en Puno.
Ça reste la langue des émotions, cette langue?
C'est une langue du profond. En fait, ça a été compliqué pour moi puisque je vivais 15 jours chez mon père et 15 jours chez ma mère. Et donc moi, je peux comprendre certains mots de ma langue, mais il m'est très difficile de parler ma langue. Mais je suis très sensible, par contre, à la musicalité de ma langue.
Vous avez de grandes oreilles, hein ?
Ah oui, j'ai des grandes oreilles. Jumbo.
Vous qui travaillez, qui vivez entre plusieurs mondes et donc entre plusieurs langues aussi, vous luttez, j'ai l'impression, contre la binarité de nos sociétés occidentales, pour le dire comme ça. Et vous travaillez notamment sur ce que vous appelez la schizophrénie de la langue. C'est-à-dire
J'ai travaillé sur la langue secouée, effectivement, depuis 2008. Hein.
La langue secouée.
J'appelle ça la langue secouée, un peu comme les bébés secoués, c'est-à-dire une maman qui ne supporte pas son petit, elle va le secouer, et ça peut provoquer des crises d'épilepsie. Donc voilà, c'est parti un peu de là. Donc la langue secouée, c'est comment faire avec les langues. Quand il s'agit de la langue de l'oppresseur, avec contextuellement une relation, à cette culture qui est complexe, voilà, comment finalement aussi se réconcilier avec la mère. Et je sais qu'avec ma mère, parfois, on ne se comprenait pas sur la signification des mots. Parce que moi, j'ai appris le français dans un pays africain, même avec une mère française. Mais tous ceux qui parlaient français autour de moi étaient africains. Et donc, ils parlaient à travers la sensibilité de leur langue.
Mmh. Sur quel mot vous ne vous compreniez pas, par exemple ?
Je ne sais pas. Par exemple, quand elle parlait d'une fraise, je n'avais jamais goûté de fraise. Même la manière, d'ailleurs, de consoler ma mère était plutôt une dolto. Mon père avait une façon de consoler ou d'écouter qui était culturellement totalement différente.
C'est-à-dire ?
Eh bien, ma mère, on pouvait s'exprimer, elle nous écoutait, elle décortiquait chaque mot.
C'était
elle
verbalisé.
Essayait de comprendre, on verbalisait. Et mon père prenait mon front, il frottait mon front contre le sien, il me disait « maintenant tu passes entre mes jambes et c'est bon ». C'est-à-dire qu'il y avait toujours des gestes comme ça de courage. Il me donnait le courage.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va soigner l'âme en sol majeur une dernière fois avec les mots, ceux qui vous touchent véritablement, ceux du poète gabonais Pascal Ndouna de Pono. Un poème qui s'appelle « Dans la nuit ». Juste avant de le lire, pour quelle raison vous aimez ce poète ?
J'aime ce poète. Il dit dans les mots ce que l'on ne peut pas dire, ce que l'on ne peut pas exprimer autrement.
Il a été assassiné ? C'est le poète qu'on a assassiné ? C'est le militant ? C'est...
Je ne sais pas.
On assassine beaucoup sur le continent sans que l'on sache les raisons.
Oui, en tout cas, moi j'ai vu de nombreuses personnes partir, que ce soit au Gabon ou partout ailleurs. Oui, on assassine beaucoup, oui. Dors tranquille, Wana, aux cheveux crépus. Sur toi, l'ombre de tes ancêtres veille, jusqu'à l'heure où le soleil se lève. Dors du sommeil reposant des fauves repus, alors que dehors, tout s'agite en se désolant, tranquille aussi une âme dans l'innocence, en paix, se relève en se consolant d'une blessure qu'elle pense en silence.
Merci Myriam, on aurait pu se quitter avec des sabots de chevaux, c'est un son qui vous est très agréable, on aurait pu... aussi parler du génocide des Tziganes, c'est une page d'histoire très importante pour vous. On aurait pu tant de choses. On peut annoncer en revanche l'exposition qui se termine aujourd'hui, qui est une exposition monographique à Bourges en France, intitulée « Silo », d'un mot, cette exposition.
Alors Silo, ce sont justement toutes ces graines de soin et de conscience avec lesquelles je travaille sur différents territoires. Silo est une exposition monographique dont la commissaire est Julie Crène. Et sur 3 étages, justement, c'est plusieurs années de regard, de production. Je parle du grand corps, le corps psychique, le corps politique, le corps social et le corps mystique, je pense, profondément.
Merci profondément, Myriam Mihindou. Et ce qu'on va faire, c'est se séparer avec une de vos musiques, Zakir Hussain et Rakesh Chorazi. Pourquoi ce tandem ?
Ouais, parce que cette musique est un carrefour pour moi. Elle est tout ce que j'aime. J'aime beaucoup les ragas. Je pourrais en écouter des heures. Et ce sont des musiciens de grands maîtres. Et je pense que ça fait du bien à l'âme. Ça caresse l'âme. Moi, quand je l'écoute, en tout cas, ça caresse mon âme et j'ai envie de marcher.
Direction l'Inde.
Voilà.
De lointain en sol majeur. Émission à retrouver en podcast sur votre application Pure Radio ou bien sur nos réseaux sociaux Facebook ou Twitter ou encore derrière votre poste chaque samedi et chaque dimanche à 14h10 temps universel avec le trio Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. On vous retrouve demain avec Fatima Siraniam. C'est à la Maison des Femmes de Saint-Denis près de Paris que nous serons. À demain.